Bonjour à tous. Je vous propose qu'on remette ce temps au Seigneur. Merci Père éternel, merci pour ta grâce. Merci pour ce culte, ce temps qu'on a entre nous, ce temps qu'on a avec toi Seigneur. Merci de venir vraiment bénir ta parole ce matin, de venir toucher nos cœurs Seigneur, de venir nous encourager, nous fortifier. Merci Père parce que pour chacun tu as des trésors en réserve. Je te prie que ce matin tes trésors soient déversés dans les cœurs Seigneur. Amen. Alors, je voulais déjà commencer ce message justement par remercier les personnes qui prient pour nous, pasteurs, parce que vous savez, se mettre ici pour prêcher la parole de Dieu, bah, c'est quelque chose voilà, qui est un acte voilà, fort et on a besoin de vos prières. Je sais qu'il y en a qui prient pour nous et vraiment merci beaucoup. On veut vraiment vous apporter la bonne nourriture au bon moment et vraiment on a besoin de vos prières. Merci beaucoup en tout cas. Et ce matin, enfin, quand j'ai préparé ce message durant les dernières semaines, le Seigneur me faisait regarder en fait en arrière. Il me faisait regarder mes deux derniers messages. J'avais même pas tilté en fait. Et il me disait, voilà, ça va aller dans la continuité de ce que tu avais apporté avant. Mais j'en avais même pas, j'en avais même pas l'idée avant que le Seigneur me parle. Et ben voilà, je vais juste vous résumer rapidement ce que le Seigneur m'avait donné par grâce les fois d'avant. Donc j'avais partagé, si vous vous souvenez, sur le psaume 73, et on avait parlé d'Asaph. Asaph qui est un lévite, qui est un des chefs de la chorale, qui a été nommé par David. Et Asaph, dans ce psaume, eh bien, il nous confie en fait qu'il est prêt à lâcher Dieu. Il nous confie qu'il n'en peut plus. Et qu'est-ce qui le touche en fait? C'est parce qu'il voit les gens autour de lui, les personnes riches, les personnes qui ne se soucient pas de Dieu, et pour eux tout va bien. Et lui, Asaph, il a des problèmes. Et il se sent comme au-dessus d'un précipice et il sent qu'il va tomber. Il sent qu'il va lâcher Dieu. On avait abordé que Asaph, il ne voyait qu'une facette de la vérité. Il ne voyait que les choses terre à terre. Qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait ses problèmes et il voyait les riches qui réussissaient. Et ensuite, dans le verset 16 à 17, il nous est dit « Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. » Asaph, ce qu'il a sauvé, c'est de revenir dans la présence de Dieu. C'est de reconnecter avec Dieu. C'est le jour où il est rentré dans le sanctuaire pour se mettre face à Dieu qu'il a eu la réponse. Et c'est ce jour-là qu'il a vu toutes les faces de la vérité. Oui, le riche, pour l'instant, il est bien. Mais s'il ne se repent pas, la suite n'est pas bonne pour lui. Et Asaph a dû renourrir ce feu qu'il y avait en lui dans la présence de Dieu. Ensuite, la dernière fois, peut-être que vous vous souvenez, on avait vu les disciples d'Emmaüs. Ceux qu'on appelle les disciples d'Emmaüs. En fait, ils sont disciples de Jésus. Et donc, ces disciples-là, ils étaient complètement découragés. Ils ont vu Jésus se faire crucifier, mais ils n'ont pas voulu croire en la résurrection. Et le troisième jour, ils sont partis, ils sont rentrés chez eux, parce qu'ils avaient une mauvaise déjà notion de qui était Jésus. Ils pensaient que Jésus devait venir pour libérer le peuple d'Israël, des Romains. Donc, ils avaient déjà cette conception-là. Et puis ensuite, ils n'avaient pas voulu croire aux paroles de Jésus. Il y avait une incrédulité. Quand Jésus avait annoncé sa résurrection, quand les femmes qui sont allées au tombeau sont revenues pour dire « le corps n'est plus là, on l'a vu », ils n'ont pas cru non plus. Il y avait une incrédulité dans leur cœur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés chez eux. Mais sur le chemin, ils ont rencontré Jésus. Ils ont rencontré Jésus qui leur a incognito, ils ne savaient même pas que c'était Jésus. Et Jésus va les ramener où? À la parole de Dieu. Il va leur expliquer la parole, il va leur expliquer ce qu'il y avait dans les prophètes, il va leur redonner cette foi en la parole de Dieu. Et donc, ils vont sortir de cette bulle de mensonge sur quoi ils se tenaient avant, c'est-à-dire quelque chose qui n'était pas solide, ce qu'ils pensaient eux, ce qu'ils croyaient eux, ce qu'on leur avait dit. Et maintenant, ils vont décider de marcher sur la parole de Dieu, de s'appuyer sur la parole de Dieu. Alors, voilà, juste ce petit récapitulatif pour dire que voilà, ces personnes, ben, elles étaient serviteurs de Dieu comme Asaph. Il y avait sûrement une grande onction sur Asaph. Il dirigeait la louange, il était lévite. Et pourtant, il s'écartait dangereusement de Dieu. Ces personnes qui allaient à Emmaüs, elles étaient appelées disciples quand même de Jésus, hein, et prenaient le chemin inverse dans l'incrédulité. Le feu qu'ils avaient reçu de Dieu s'éteignait en fait peu à peu. Et le feu est revenu comment ? Par la présence de Dieu et la confiance en sa parole. Donc on peut avoir des dons, on peut avoir être grandi dans une famille chrétienne, on peut avoir reçu beaucoup de choses de Dieu, cela ne suffit pas. Il faut constamment entretenir le feu que Dieu a mis en nous, afin de pouvoir marcher dans ses voies, dans sa volonté. C'est quelque chose qui s'entretient, ce n'est pas quelque chose où on peut se reposer sur nos lauriers et dire « non, voilà, c'est fait, j'ai tout reçu, maintenant c'est bon ». Il y a quelque chose à entretenir. Et voilà, j'en viens au titre de mon message. Merci. Pierre. Vivre et marcher par l'Esprit. Alors j'aimerais qu'on prenne ce matin le chapitre 5 de l'Épître aux Galates. C'est un chapitre où Paul va expliquer aux Galates que le Christ les a libérés de la loi. Parce qu'ils avaient une tendance à se remettre sous la loi et qu'ils ne doivent pas retomber dans cet esclavage. Il les met en garde aussi que la liberté chrétienne, ce n'est pas une excuse pour faire n'importe quoi. Elle doit se vivre par l'amour du prochain, en fait cet amour qui résume toute la loi. Et il va opposer ensuite deux façons de vivre, vivre selon la chair, l'égoïsme, les désirs mauvais, qui va produire en fait l'immoralité, la jalousie, les disputes, etc. Et vivre selon l'Esprit de Dieu. Cela va produire le fruit de l'Esprit. Vous connaissez l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Et puis, on arrive à ce passage qu'on va prendre ce matin, dans Galates 5, 23 à 26. Merci. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Dans ce passage, je voudrais m'arrêter plus précisément sur le verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. On voit dans ce verset qu'il y a deux expressions. Vivre par l'Esprit et marcher par l'Esprit. Et je crois que souvent, en tant que chrétien, on mélange un peu les deux. On confond un peu les deux. On ne voit pas bien ce qu'il y a derrière. Vivre par l'Esprit et marcher par l'Esprit. Ce n'est pas la même chose. Et il y a une traduction, il y a juste Paul aussi qui dit, oui, où je voulais insister, Paul il dit, il les dissocie bien, vous voyez, qui dit aussi, en utilisant aussi, il sous-entend qu'on pourrait vivre par l'Esprit et ne pas marcher par l'Esprit. C'est quelque chose de possible, puisqu'il dit, il nous faut aussi marcher par l'Esprit. Et dans certaines traductions, dans Second 21, il est dit « Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous conduire aussi par l'Esprit. » Alors, je ne vais pas me permettre de critiquer une traduction, mais laissons-nous conduire, il y a quelque chose de doux, il y a quelque chose de dire oh, « on se laisse porter, puis on va se laisser conduire par l'Esprit. » C'est une phrase qui semble douce et qu'on, voilà, on ne va peut-être pas s'arrêter forcément dessus. « Oui, bah oui, je vis par l'Esprit, je me laisse conduire par l'Esprit. » Mais en fait, ce verset-là, il a beaucoup plus de profondeur. Car les deux verbes utilisés par Paul sont complètement différents, en fait. Il y a deux notions différentes dans vivre et marcher. Alors, je vous propose qu'on les voit ce matin. Le premier pour vivre, c'est le mot « zao ». C'est quoi ? C'est ce que Jean-Marie nous a expliqué tout à l'heure. C'est la vie nouvelle que Dieu insuffle en nous. C'est lors de notre nouvelle naissance, le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Et comme l'a dit Jésus, cette nouvelle naissance, elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour avoir l'éternité. Parce que le péché qui s'est répandu en génération nous a coupés de Dieu. Nous sommes coupés de la source de vie, pas la vie charnelle, la vie intérieure, la vie éternelle. Nous sommes coupés de lui à cause du péché. Et le péché nous sépare de Dieu et nous sépare de cette vie que Jésus appelle la vie en abondance. Et l'homme, par ses propres efforts, ne peut pas produire cette vie. Et on voit toute la bêtise, en fait, de la religiosité. Par mes propres efforts, par mes rites, par tout ce que je peux faire comme tradition, je ne peux pas retrouver la vie. C'est comme si vous voulez arroser votre jardin et vous ne branchez pas votre tuyau au robinet. Vous pouvez dire au tuyau, vas-y, produis de l'eau. Il ne va pas produire de l'eau. On ne pouvait pas. L'homme ne peut pas s'en sortir. Il ne peut pas renaître de nouveau par lui-même. Et c'est pour ça que Jésus est venu, pour nous permettre de recevoir cette vie. Parce qu'en lui, la barrière du péché a été prise. Pour que chacun puisse retrouver cette vie simplement par la foi en lui. Simplement parce que j'ai foi en Christ. Maintenant, mes péchés ont été pardonnés. Je suis justifié, je suis rendu juste devant Dieu. Le Saint-Esprit peut venir habiter en moi. Je reçois la vie en abondance. C'est ça le beau message de l'Évangile. Ça, je ne peux rien faire par moi-même pour le recevoir. Je peux simplement l'accepter, tendre mes mains et dire « Seigneur, je reçois. Je reconnais que je ne peux pas me sauver moi-même, que j'ai besoin de cette vie que tu m'as donnée. » Donc Jésus est venu comme ce sauveur, comme ce Seigneur, pour que nous puissions recevoir la vie en lui. Alors le Saint-Esprit qui est Dieu, ce n'est pas un petit Dieu non plus le Saint-Esprit qui est pleinement Dieu, vient habiter en nous. Il ne vient pas faire du tourisme, il ne vient pas visiter un petit coup puis s'en aller, il vient demeurer en nous, demeurer en celui qui a accepté Christ. Dans Éphésiens 1, 13, il est dit, « En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Scellés. C'est un terme qui est très fort, scellé. Vous savez, quand un roi, il envoyait une lettre importante, une fois que la lettre était fermée, il versait de la cire et il imprimait son sceau, sa bague là. Il mettait son sceau dessus. Et à partir de ce moment-là, tout le monde sait trois choses. Cette lettre est écrite par le roi, elle appartient au roi, elle est sous son autorité et personne n'a le droit de la modifier. C'est exactement ce que Dieu a fait avec nous. Le jour où nous croyons en Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient demeurer en nous, comme un sceau. Et Dieu dit, tu m'appartiens, tu es sous ma protection et je te conduirai. Voilà le Zao. Le Saint-Esprit va apporter sa lumière en nous et automatiquement une paix nouvelle, une joie, la conviction d'être sauvé va venir dans notre cœur. C'est les premiers signes en fait de la nouvelle naissance. Il y a une joie, il y a une paix, on ne voit plus les choses autrement. Et il y a cette paix en nous, il y a cette lumière qui est venue en nous. Jean 8, 12 nous dit, « Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » C'est fini les ténèbres, c'est fini de dire, « Je ne sais plus où je vais, je ne sais plus à quoi sert ma vie, je ne sais pas pourquoi je suis là. » Jésus est la lumière de notre vie, le Saint-Esprit est venu habiter en nous pour nous éclairer. Donc, le récapitulatif de ce mot Zao, vivre par l'esprit Zao, c'est un nouveau cœur. Dieu nous donne sa vie, c'est une nouvelle naissance. Le Saint-Esprit habite en nous et nous avons reçu une nouvelle identité, celle d'enfant de Dieu. Nous n'avons rien payé pour cela, nous n'avons rien fait d'extraordinaire. Nous avons juste reçu sa grâce et son amour. Et si ce matin, il y a des personnes encore qui n'ont pas reçu cette grâce, cet amour, qui n'ont pas encore dit oui, je vous invite simplement à l'accepter dans votre cœur. Venez nous voir à la fin, on priera avec vous. Mais c'est gratuit. Jésus a tout payé, il a tout accompli pour que chacun de nous, nous ne soyons plus dans les ténèbres, pour que chacun de nous, nous puissions recevoir la vie en abondance. Dieu nous appelle et il y a une main tendue. Il demande juste, saisis ma main, viens avec moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Éphésiens 2, 8, 9 nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voilà, pour le mot Zao, j'espère que c'est clair. Hein, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire par nous-mêmes, c'est quelque chose qu'on a reçu de Dieu. C'est ce souffle de vie, cette renaissance à la vie pour Dieu par notre esprit. Le deuxième verbe que l'on traduit souvent par marcher ou se conduire, donc on voit dans ce verset, par marcher ou se conduire, c'est le mot grec stoïkeo. Alors ça ne vous dit peut-être rien, mais en fait, ce n'est pas le même mot qu'on utilise pour dire je marche. Vous voyez, dans la vie de tous les jours, on marche. Ce n'est pas ce mot-là que Paul utilise. Ce mot-là, c'est péripatéo. C'est le fait de marcher avec ses jambes. Là, Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il va choisir un autre mot qui est beaucoup plus fort. En fait, il vient du vocabulaire militaire romain. Ça signifie marcher en formation, de manière disciplinée, en gardant le rang. Alors, si vous avez déjà lu le Nouveau Testament, vous avez sûrement remarqué que les images militaires, elles sont nombreuses. On parle de soldats de Christ, on parle des armes du chrétien, de compagnons d'armes. Jésus lui-même est appelé l'archégos, c'est-à-dire le commandant, le chef. Il y a beaucoup de termes militaires qu'on retrouve associés à l'Église et aux chrétiens. Et ce n'est pas pour rien, ce n'est pas un hasard. Hein. La Bible nous rappelle que nous sommes engagés dans une véritable guerre spirituelle. Et ça, on a souvent tendance à l'oublier. On est dans une guerre spirituelle. Si Paul, le Saint-Esprit, parle d'armes, de soldats, c'est parce qu'il y a une guerre. Et vous ne le savez peut-être pas, mais quand vous avez signé avec Christ, vous avez signé une déclaration de guerre au monde des ténèbres. Hein. C'est signé. Hein. Je déclare la guerre aux ténèbres maintenant. Je suis devenu citoyen des cieux. Donc, je ne suis plus dans le royaume des ténèbres. Donc, automatiquement, j'entre en guerre contre l'ennemi de Dieu. Donc, nous sommes dans une guerre spirituelle. Christ a déjà remporté la victoire à la croix, on le sait, mais nous sommes appelés à vivre chaque jour dans cette victoire, à tenir ferme face à l'ennemi. Et le jour où nous naissons de nouveau, comme je l'ai dit, nous devenons citoyens du royaume des cieux, donc nous entrons en guerre. On va revenir à ce mot stoïkeo. À l'époque romaine, donc, la formation d'un bataillon n'avait rien de décoratif. En fait, vous voyez peut-être dans les albums d'Astérix, où ils font les formations tortues, les formations rectangles, je ne sais pas quoi là. Ce n'est pas pour faire joli, hein, puis ce n'est pas que dans la BD. C'était vrai. Hein. J'ai retrouvé une image d'époque. Enfin, je crois, non. Donc, il y avait réellement ces formations-là que les Romains utilisaient pour combattre leurs ennemis. Et c'était une question de survie, une question de gagner la guerre. Chaque soldat devait rester à sa place pour que les boucliers en fait se chevauchent et qu'aucune faille ne permette de laisser entrer une flèche ou une lance ou une épée. Donc il fallait que chaque soldat soit bien serré, soit à sa place et fasse son job en fait. Et dans une telle formation comme on a là en photo, ben un soldat il choisissait pas son propre rythme. Il disait pas je veux rentrer plus tôt ce soir, on va y aller un peu plus vite les gars. Non, ce n'est pas parce qu'il était aussi plus fatigué qu'il devait marcher moins vite. Il fallait qu'il marche au même rythme que les autres. Et puis, il ne pouvait pas décider aussi de quitter son rang pour aller voir ailleurs parce que le paysage était plus beau. Il ne pouvait pas changer de voisin parce que son voisin il s'était disputé avec lui la veille. Il fallait qu'il reste en formation. Il devait rester à sa place. Marcher dans même pas que les autres et suivre les ordres. Sa vie, en fait, elle en dépendait, la vie aussi de ses copains. Il devait accepter de se soumettre au rythme de toute la formation. C'est ça, hein. Là, on voit, c'est joli, c'est une reconstitution, mais à l'époque, ça ne plaisantait pas hein, sur un champ de bataille comme ça. Hein. Ils n'étaient pas là pour se faire des cadeaux. Et tout dépendait, en fait, du respect de l'autorité, simplement. Je respecte, je sais que c'est une question de survie. Et je dois rester dans les rangs. Je dois rester dans les rangs. Moi, j'ai fait mon service militaire. 10 mois, j'étais dans les avant-derniers. Je peux vous dire, je n'étais pas très content. Mais bon, j'y suis allé 10 mois. Et quand j'y réfléchis maintenant, je me dis, ouais, j'ai appris tellement de choses. Et la première chose qu'on nous apprenait là-bas, bon, après nous avoir rasé la tête et tout, c'était de marcher au pas, justement. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi ? Et je peux vous dire que ce n'est pas instinctif hein, de marcher au pas. Des tours de caserne, j'en ai fait. Hein. Et c'est seulement au bout de plusieurs jours qu'on arrive à peu près à marcher au pas tous ensemble. Et franchement, je ne comprenais pas. Et en fait, dès qu'on allait manger, par exemple, au réfectoire, ben, le sous-off nous faisait faire des tours et des tours. On ne pouvait jamais aller manger. Et on râlait, on râlait, on râlait. Et puis un jour, on s'est mis à plus râler, puis on s'est mis à faire ce qu'il nous disait. Et puis à partir de ce moment-là, on faisait un tour et on allait manger. Et en fait, apprendre au marché au pas, ce n'est pas simplement pour défiler le 14 juillet. Ce n'est pas simplement ça. En fait, quand on apprend à marcher au pas, on nous inculque le fait de rester en formation, de rester sous l'autorité de quelqu'un qui va donner le rythme. Parce que cela, sur le terrain, ça va être encore une question de survie. Parce que celui qui ne veut pas se soumettre, là, quick, il va y passer. Donc, quand on comprend cela, on comprend un petit peu mieux pourquoi il y a tout ça dans l'armée et pourquoi c'est vraiment important sur un champ de bataille. Sur un champ de bataille, la discipline fait toute la différence. Vous savez, des fois, les barbares, ils arrivaient, ils étaient tout n'importe comment. Peut-être les Gaulois, ils se battaient comme ça, je ne sais pas comment. Mais en tout cas, les Romains, eux, c'était carré. Et on voit que c'est eux qui gagnaient les batailles, parce que c'était carré. Et donc, Paul, il a choisi ce mot. Hein. Ce n'est quand même pas par hasard. Hein. C'est quand même un mot qui est lourd de sens. Hein. C'est pas une petite promenade en planant, puis en se disant « ouais, je fais ce que je veux, ouais, aujourd'hui je vais obéir, demain je vais pas obéir, ouais, je vais suivre mon intuition, je vais suivre mes envies. » Non, c'est pas ça. C'est pas ça la vie chrétienne que Paul nous dit. C'est pas cette marche-là. Ce n'est pas se laisser aller et dire « ben, on verra bien ». C'est dangereux ça aussi. Ce n'est pas une écoute occasionnelle de Dieu quand j'en ai envie, quand ça me fait plaisir, quand c'est notre dernier recours. Non, c'est en fait un abandon de chaque jour, un désir quotidien de marcher au rythme du Saint-Esprit. Une, deux, et j'avance au rythme du Saint-Esprit. Je veux connaître sa volonté pour ma vie et je veux me soumettre à sa volonté. Parce que je sais qu'elle est bonne pour moi et qu'elle me protège. La semaine dernière, Johanna nous a exhortés à reprendre notre rôle dans le couple. Elle nous a donné, le Saint-Esprit nous a donné des directives à travers elle de reprendre chacun notre rôle, autant que homme que femme. Ces directives sont là, on les a entendues, on les a écoutées. Maintenant, on a le choix de vouloir mettre ça en application ou pas dans notre couple. Mais il faut être conscient d'une chose, que nous sommes sur un champ de bataille. Nos décisions vont nous impacter forcément et vont impacter aussi nos familles, l'Église, tous ceux qui sont autour de nous. On a reçu, je crois, vraiment la directive des choses à mettre en place. On ne peut pas dire « le Saint-Esprit ne nous a pas parlé » et on sait ce qu'on doit faire dans nos couples. Maintenant, est-ce que je me soumets à ça ou je ne me soumets pas ? Qu'est-ce que je fais ? Vous savez, sur un champ de bataille, si un officier crie à couvert et que moi, je décide de rester debout et je ne me mettrai pas à couvert, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais m'en prendre une. Ah ouais. Dans le monde spirituel, c'est la même chose. Le Saint-Esprit vous crie « à couvert ». À couvert, suivez-moi. Non, je ne veux pas te suivre. Moi, je vais dans l'autre sens. Et après, on va venir pleurnicher. Oh, pourquoi ça pour... Mais je t'ai dit, je t'ai prévenu. Si en rentrant du culte, je décide de rouler à gauche, je ne veux pas écouter le code, là, ça ne sert à rien, ça. Je décide de rouler à gauche. Qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais avoir un accident. Ça, on le comprend pour les choses sur cette terre, mais pour Dieu, on ne le comprend pas. On dit, bah, allez, je peux mettre ça de côté. Ouais, il me dit de faire ça, mais bon, il y a encore le temps. Il y a encore le temps, oui, il y a encore le temps. Non, Dieu nous prévient, c'est pour notre bien. Maintenant, à nous d'écouter. Marcher par l'esprit, stoikeo, c'est une nouvelle manière de vivre. Nous désirons suivre l'esprit. Nous décidons, nous choisissons d'obéir chaque jour. On accepte que ce soit le Saint-Esprit qui donne le rythme. Et là, on a une vie de disciple. C'est un choix renouvelé chaque jour. Vous voyez, Dieu, là, il a très bien fait les choses. Vous voyez, la religion, vous savez comment ça marche, la religion. La religion, il n'y a pas la partie de gauche. Il n'y a pas la vie de l'esprit, il n'y a pas le Saint-Esprit en vous. La religion, elle vous dit quoi? Sois meilleur, fais ci, fais ça. Mais Dieu, il n'a pas fait ça, lui. Il nous a donné les capacités. Il est venu habiter en nous. Il nous a donné vraiment cette capacité de vivre en nouveauté de vie. Chaque enfant de Dieu a cette capacité en lui, par le Saint-Esprit, de vivre une nouvelle vie. Maintenant, à nous de le choisir, de dire « oui, je veux de cette nouvelle vie ». Ce n'est pas une religion, c'est ma relation avec le Saint-Esprit qui va faire la différence et qui va me faire avancer dans la bonne direction. Donc d'abord la vie, ensuite la marche. D'abord la vie et ensuite la marche. Et je sais, beaucoup de chrétiens, on essaye de marcher par nous-mêmes. C'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui va nous conduire. On va voir la suite. Dieu donne la vie, le Saint-Esprit habite en nous, cette vie produit une marche quotidienne. C'est quelque chose qui doit être naturel. Le Saint-Esprit est en moi, il va produire quelque chose de nouveau. Vivre par l'Esprit, c'est ce que nous avons reçu. C'est notre nouvelle identité. Elle nous a été donnée par la foi en Jésus. Marcher par l'Esprit, c'est un choix, une décision renouvelée chaque jour. La mise en pratique de la nouvelle identité que nous avons reçue. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est possible d'avoir le Saint-Esprit puis pas de marcher selon le Saint-Esprit? Ben oui. Et il y a un très bon exemple dans la Bible. On va le voir rapidement. Un exemple, c'est Saül. Alors Saül, on pourrait dire, ouais, Saül, c'est un roi de l'Ancien Testament. Le regarder un peu de loin, comme ça, il était complètement fou et tout. Non, on peut s'intéresser à sa vie et voir des choses qui vont nous parler à nous. Tout d'abord, Saül, il a été oint comme premier roi d'Israël, 1 Samuel 10. Et on nous dit qu'une chose s'est produite, une chose remarquable, l'Esprit de Dieu vint puissamment sur lui. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Il va commencer à prophétiser aux côtés des autres prophètes. Il nous est dit aussi que Dieu va lui donner un cœur nouveau. Donc il y a une onction authentique qui vient de Dieu sur Saül. Il y a quelque chose de précieux, de fort qui est sur Saül. L'Esprit est là. Il y a des manifestations, il y a un cœur nouveau. Et pourtant, lorsque Saül fut... À mesure que les pressions s'accumulaient, à mesure qu'il y avait des batailles, il y avait des pressions politiques, des attentes, eh ben Saül, il va commencer à faire les choses à sa manière. Il va commencer à souvent désobéir à Dieu. Par exemple, quand Samuel va être retardé pour faire le sacrifice, eh ben qu'est-ce qu'il fait, Saül? Il sort des rangs. Et il offre le sacrifice lui-même. Oh ben, il ne vient pas, je vais le faire moi-même. Alors qu'il n'a pas cette autorité pour le faire. Ce n'est pas un rôle qui lui a été donné. Plus tard, après une victoire contre les Amalécites, Dieu a donné un ordre très clair. Ne rien prendre du butin. Qu'est-ce qu'il fait, Saül? Il a pris le meilleur bétail. Et lorsqu'on l'a confronté, il va dire quoi? Il a appelé ça de l'adoration. Il se trompait lui-même, en fait, sur ce qu'il était en train de faire. Lui-même, il était sincèrement convaincu que sa version de l'obéissance, elle était nickel, quoi. Elle était assez proche de la réalité, en fait. Et petit à petit, le roi Saül a traité les instructions de Dieu comme négociables. On peut négocier, on peut faire un petit arrangement, une petite coupure par là, un petit compromis par ici, et puis on continue d'avancer. Et puis, il suivait en fait les directives de Dieu quand ça l'arrangeait. Et si ça ne l'arrangeait pas, bah, il ajustait un petit peu. Et l'Esprit de Dieu qui était en lui, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est progressivement retiré de lui. Non pas avec colère, mais comme la conséquence de ce que Saül était en train de vivre. C'était un homme rempli d'onction, mais il a choisi de faire ce qui lui semblait bon à lui, de ne pas obéir à ce que Dieu lui demandait. Et le personnage de Saül est très subtil parce qu'en fait, il n'a jamais levé le poing contre Dieu. Il n'a jamais maudit Dieu. On n'entend pas ça dans sa bouche. Jamais. Par contre, il a toujours cherché à négocier. Il a modifié les instructions de Dieu. Il a obéi quand cela lui convenait. Et lentement, à travers toutes ces petites ruptures avec la direction du Saint-Esprit, eh ben, il s'est écarté de la direction de Dieu. Et il a mal fini. Il s'est creusé entre lui et l'Esprit de Dieu qui était sur lui un fossé. Il n'a plus du tout avancé dans la direction de Dieu. Et je crois que nous, en tant que chrétiens, ça doit nous parler. Quand on fait des petits compromis, quand on dit « ouais, c'est un petit péché, ça. Puis ça, j'ai ça depuis toujours, donc je ne vais pas me battre avec ça, je garde. » Tous ces petits compromis qui sont en train de mettre une rupture entre nous et Dieu, en fait. Ce n'est pas que Dieu te lâche, hein, ce n'est pas ça, ce n'est pas que Dieu. Mais il se crée un fossé, comme dans un couple, en fait. Un couple qui ne communique plus, un couple qui ne se parle plus, un couple qui agit chacun de son coin, bah forcément, ils s'écartent l'un de l'autre naturellement. C'est pareil avec le Saint-Esprit en nous. Si on fait comme Saül et on commence à faire nos petits arrangements, à négocier, à trafiquer un petit peu ce qui nous arrange, on ne peut pas garder ce feu en nous. Il ne peut pas y avoir le feu en nous. Vous savez, moi, à la maison, on se chauffe avec un insert. Et mon insert, il est très spécial parce que quand je mets plus de bois, il ne chauffe plus. Je ne sais pas, c'est pareil pour vous, non ? Si je ne mets pas un bout de bois dedans, ben, au bout d'un moment, ça s'éteint. Alors, je peux partir 2 heures, 3 heures, je reviens, ah, il n'y a plus de feu. Je ne sais pas quand ça s'est éteint exactement, mais je vois qu'il n'y a plus de feu, en tout cas. Et ben, dans notre cœur, vous savez que ça peut être très, très subtil comme ça. Petit à petit, petits arrangements après petits arrangements, le feu diminue. Le feu diminue, puis il n'y a plus, au bout d'un moment, il n'y a plus cette flamme par Dieu. Parce qu'on a tellement trafiqué de notre côté, on a tellement laissé le Saint-Esprit de notre côté, que le feu s'éteint petit à petit. Alors, on pourrait prendre aussi l'exemple des Corinthiens. Alors eux, Paul, il leur a dit qu'il ne leur manquait aucun don. La prophétie, le parler en langue, les paroles de connaissance, la guérison. Il y avait vraiment une réelle présence du Saint-Esprit. C'est sans doute l'Église qui vivait le plus de dons spirituels à l'époque. Mais 2 chapitres plus tard, Paul écrit, 1 Corinthiens 3:1, « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. » Comment cela peut être possible ? Ils vivaient tous les dons et en même temps, Paul leur dit « Vous êtes charnels, vous êtes à côté de la plaque. » Les dons que Dieu nous donne sont des dons de grâce. Et ils ne prouvent pas qu'une personne marche par l'esprit. C'est dingue, hein ? Mais ça, c'est très dangereux aussi. Vous savez, des fois, on voit des scandales, voilà, des grands ministères qui chutent, mais on se dit « Mais ce gars-là, il guérissait des malades, il voyait des grands miracles. » Ça ne veut rien dire. Ce sont des dons de grâce. Ce sont des dons de grâce. L'Église de Corinthe était là-dedans. Ils vivaient des choses merveilleuses. Par contre, ils ne marchaient pas avec Dieu selon son esprit. Ils laissaient des choses dans leur vie. La marche par l'esprit nécessite l'humilité, l'écoute, l'obéissance, un désir quotidien de marcher sous la direction de Dieu. Donc, je ne peux pas dire, moi, ouais, je vois des choses, donc je n'ai rien à changer dans ma vie. Je reçois des choses de Dieu, je reçois des paroles. Non, c'est très mauvais, ça. C'est un don de grâce. On doit pouvoir toujours nous parler. Que l'on soit pasteur, que l'on soit prophète, on doit toujours être enseignable. Rester à l'écoute du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu veux encore changer dans ma vie, Saint-Esprit? Est-ce que là, j'ai tort? Restons dans l'humilité. Les dons sont toujours des dons de grâce. On n'a rien payé pour les avoir. Hein. Ils ne reflètent pas notre maturité. Hein. Restons humbles. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ces dons de grâce. Alors, on va voir concrètement maintenant qu'est-ce que cela veut dire alimenter le feu. Comment on peut alimenter ce feu en nous? Comment alimenter la fournaise? Pas en théorie, mais dans la vie de tous les jours. Dans Romains 8:5, il nous dit « Ceux qui vivent selon l'esprit portent leurs pensées sur les choses de l'esprit. » En fait, tout commence par nos pensées. C'est là que tout se joue. Si je veux marcher avec le Saint-Esprit, je dois nourrir mon esprit, mes pensées, mon âme des choses de Dieu. Beaucoup vont dire « Oui, mais moi je ne reçois rien de Dieu, je ne vis rien avec Dieu. » Et puis après, quand on gratte un peu, on voit, bah oui, t'es 8 heures au travail, tu rentres chez toi, tu regardes Netflix, après tu t'endors, tu retournes au travail, tu regardes les infos. Mais comment tu peux reconnaître la voix du Saint-Esprit comme ça? Si tu nourris tes pensées ou uniquement des choses du monde. Effectivement, on est dans le monde. On ne va pas se couper du monde. On va forcément avoir des arrivées de pensées, de paroles qui ne viennent pas de Dieu. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est aussi de nourrir mon âme avec la parole de Dieu, avec la pensée de Dieu. Sinon, je ne reconnaîtrai pas sa voix, je ne pourrai pas la reconnaître. Deux questions simples que nous pouvons nous poser pour voir où nous en sommes dans notre relation avec le Saint-Esprit. Quand je n'ai rien de particulier à faire, où vont naturellement mes pensées? Vers quoi sont guidées mes pensées? Vers des... de la peur, vers de l'impureté, vers où vont naturellement mes pensées. Quand une inquiétude arrive, quand il y a un souci qui arrive, vers qui est-ce que je me tourne en premier? Est-ce que je cherche d'abord Dieu et sa parole ou est-ce que je tourne en boucle dans mes propres raisonnements? Là aussi, ça nous indique où on en est avec le Saint-Esprit. En réalité, on ne peut pas marcher dans une direction si notre esprit regarde ailleurs. Plus nous allons tourner notre attention vers le Saint-Esprit, plus nous devenons sensibles à sa voix. S'intéresser au Saint-Esprit. Simplement l'inclure dans ma vie. Pas parce que nous faisons des efforts extraordinaires, mais parce que nous prenons l'habitude de revenir à lui. Encore et encore. Encore et encore. Je me lève le matin. Quelle est ma première chose que je fais? Je prends mon portable et je regarde les infos. Je dis, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux faire avec moi aujourd'hui? Où est-ce que tu veux m'emmener? Qu'est-ce que tu as prévu? Quelle épreuve je vais rencontrer? Là, on prépare la journée et on invite le Saint-Esprit. Parce que vous savez, le Saint-Esprit, il est comparé à une colombe. Et une colombe, c'est quelque chose de fragile. C'est quelque chose de doux. Saint-Esprit ne va pas s'imposer à nous. Il est là, mais il demande que nous l'invitions dans nos vies, réellement, que nous l'appelions. Alors, petit à petit, on va apprendre à reconnaître sa voix. Ce qui semblait parfois un peu brouillé, une interruption comme ça, maintenant on va reconnaître, ah, là c'est le Saint-Esprit qui me parle. Parce que j'ai une relation avec lui, je reconnais sa voix. Avant de prendre une mauvaise décision, il va y avoir qu'une petite alerte intérieure qui va nous dire « Ah, attention, stop !» Pourquoi? Parce que j'ai une relation avec le Saint-Esprit. On sent que le Saint-Esprit est là qui nous avertit. Il fait partie entièrement de notre vie. Alors, dans une conversation, on peut passer au suivant, par exemple. Je ne choisis plus seul. Par exemple, dans une conversation, j'invite le Saint-Esprit. Je ne veux pas répondre du tac au tac. J'attends. Comme on dit, je tourne cette fois ma langue dans ma bouche. J'attends que le Saint-Esprit me parle et je réponds. Il n'y a pas d'urgence. quand on prend une décision, on s'arrête quelques secondes, quand on va écrire un mail à quelqu'un un peu difficile, on prend le temps avec le Saint-Esprit, on l'invite. Est-ce que je suis en train de suivre mon propre rythme ou le rythme du Saint-Esprit? C'est ça la question. Dans tout ce qu'on va faire, on va l'inclure maintenant. On va lui demander son avis avant de faire par nous-mêmes. Et puis ensuite, alors là, le troisième point, quand vous faites ça, vous mettez une grosse bûche bien sec dans le brasier. Ce n'est pas le plus facile des points. En marcher avec l'Esprit, ce n'est pas seulement le suivre quand tout va bien. C'est vrai qu'on aime suivre Dieu quand il nous conduit vers la paix, la joie, la bénédiction. Mais que se passe-t-il quand il nous demande d'avoir une conversation que nous repoussons depuis des mois avec quelqu'un? Lorsqu'il nous demande de pardonner à quelqu'un qui nous a profondément blessés, lorsqu'il met le doigt sur un péché que nous avons fini par trouver presque normal, lorsque quelqu'un nous dit « Bien, il faut arrêter ça dans ta vie », ou lorsqu'il nous demande de servir, de donner ou de faire preuve de bonté, alors qu'on n'en a pas du tout envie, eh bien, c'est souvent là qu'on va ralentir avec le Saint-Esprit. C'est dans ces questions, en fait, c'est des questions charnières, ça, qui peuvent nous faire basculer d'un côté ou de l'autre. Je dis oui au Saint-Esprit ou je dis non? C'est ça la question. Je lui donne mon accord ou pas? Quand on dit non, ben, on quitte le rang, en fait. On quitte le rang, on enlève le bouclier là, puis on va dans son coin. Donc on prend des risques. On décide de suivre notre rythme. Et c'est ainsi, petit à petit, rupture après rupture, chaque fois qu'on va dire non au Saint-Esprit, eh ben, le feu va commencer à s'éteindre. Non parce que Dieu s'est éloigné de nous, mais parce qu'on a cessé d'alimenter le feu en nous. Vous savez, Jésus l'a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. En tant que petit Christ, en tant que chrétien, c'est notre nourriture aussi. Ce qui va nourrir notre âme quand vous vous sentez sèche, affamée, tout ça de sec, ce qui va nourrir votre âme, c'est de faire la volonté de Dieu. Et je crois que bien souvent, on la connaît. On sait ce que le Saint-Esprit nous demande. Et si on veut remettre une grosse bûche dans le brasier, si on veut être enflammé pour Dieu, il y aura ces choix à faire là. Vous savez, les gens que vous voyez en connexion étroite avec le Saint-Esprit, les gens qui ont des grands ministères, qui voient de grandes choses, c'est pourquoi? Parce qu'elles sont passées par là. Hein. Elles ont accepté le brisement. Elles ont accepté de dire oui à ces choses-là, de rester dans ce rythme du Saint-Esprit, d'accepter ce qu'il me demande. C'est ça qui fait la différence pour avoir ce feu en nous. Et puis, le dernier point, marcher avec les autres. Je marche avec l'Église. Je reste entouré de mes frères et sœurs. Paul dit dans Galates que les croyants doivent s'aider les uns les autres. Vous savez, il y a beaucoup ce terme « les uns les autres », »,« les uns les autres ». Parce que les autres nous aident à rester sur le bon chemin. Nous avons tous besoin de frères et de sœurs qui nous connaissent suffisamment pour voir quand notre foi se refroidit, quand notre marche change, quand nous nous éloignons peu à peu de Dieu sans même nous en rendre compte. Personne n'est appelé à marcher seul. La vie chrétienne est une marche en équipe. Comme ces militaires, j'ai besoin de quelqu'un. J'ai besoin d'être repris. J'ai besoin qu'on me dise les choses. Parce que de moi-même, je peux être aveugle sur ce que je vis. J'ai besoin de l'autre. J'ai besoin de l'autre, mais j'ai aussi besoin de l'écouter. Là, c'est des fois plus compliqué de ne pas me mettre en colère quand on vient me dire quelque chose en plus qui sonne juste en moi. Vous savez, quand on vous dit quelque chose et que ça ne sonne pas juste, en général, ça glisse sur nous. Parce qu'on sait que ce n'est pas vrai. Mais quand c'est quelque chose qui vient nous percuter en plein cœur, là, ah, là, c'est plus dur. Là, il a touché un point sensible. Quelle va être ma décision? J'écoute ou j'écoute pas? Saint-Esprit, je sors des rangs ou je reste dans les rangs? Alors, pour conclure, où cette marche, en fait, cette marche en serré, là, doit-elle nous conduire? En rang serré, pardon. Dans Romains 8, 29, nous donne la réponse. Dieu veut nous rendre semblables à Jésus-Christ. C'est ça le véritable objectif du Saint-Esprit en nous. Ce n'est pas de nous rendre un petit peu meilleurs, un petit peu moins pires. Non, l'objectif, il est bien plus grand que ça. Le Saint-Esprit, ce qu'il veut faire en nous, c'est nous rendre semblables à Christ. C'est merveilleux. Vous voyez la beauté de Christ ? Le Saint-Esprit, avec ce que nous sommes, notre pourriture, tout ça, il veut nous amener à sa ressemblance, jour après jour, en marchant à son rythme, à lui. Chaque difficulté, chaque attente, chaque frustration, chaque décision où nous choisissons d'obéir à Dieu plutôt qu'à nous-mêmes, devient un combustible puissant. Le Saint-Esprit utilise toutes ces choses pour nous transformer à l'image de Christ. Alors peut-être qu'aujourd'hui, certains ont l'impression que le feu diminue en eux, ou peut-être même que le feu n'a jamais vraiment pris. Tu sais que Dieu habite en toi, mais tu n'avances plus. Il y a toujours la flamme, mais tu t'es comme arrêté en chemin et tu vois que tu n'es plus bouillant pour le Seigneur. Dans Ésaïe 42, 3, il est dit « Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. » Dieu ne va pas t'enfoncer plus. Ce n'est pas là, non. Dieu, au contraire, il veut remettre ce feu en toi. Dieu ne te demande pas de rattraper des années d'errance en une journée. Il ne va pas te demander des choses extraordinaires demain. Bon, ce n'est pas de jeûner 40 jours, prier 10 heures par jour. Ce n'est pas ça. Ça peut être ça, mais ce n'est pas forcément ça. Dieu va te demander des choses très, très simples. Et souvent, nous, chrétiens, on a l'art de tout compliquer. De tout compliquer. Dieu ne nous demande pas quelque chose de spectaculaire dans nos vies. Il nous demande simplement une chose, de reprendre notre place dans le rang. D'ouvrir notre Bible, de regarder à Jésus, d'écouter sa voix, et puis de faire simplement le petit pas qui te demande de plus. Simplement le petit pas. Et ainsi de suite. Il ne va pas te mettre une charge trop lourde sur toi. Dieu n'est pas comme ça. Il sait tes limites. Il sait où tu en es. Il te demande simplement de lui faire confiance et maintenant de te remettre dans le rang. Et on sait tous que Dieu nous demande. On ne peut pas dire le Saint-Esprit ne me parle pas. On sait chacun où on en est. On sait ce que Dieu nous attend de nous en ce moment. Et Dieu dit, je serai avec toi, mais fais ce pas. Reste dans les rangs, reste au rythme du Saint-Esprit. Un pas à la fois. C'est ainsi que la fournaise, la flamme, va revenir en chacun de nous. Voilà, je vous invite à vous lever, on va prier. Seigneur, je te bénis ce matin parce que tu es un bon Père. Tu n'es pas là pour nous écraser, tu n'es pas là pour nous mettre dans une boîte. Tu es là pour nous emmener sur un chemin merveilleux, chemin de grâce, chemin de paix, un chemin de joie. Seigneur, tu nous demandes encore ce matin de te faire confiance, de répondre oui à ce que tu nous dis, Seigneur. Merci Père, parce que nous n'avons pas crainte à avoir. Tes commandements ne sont pas pénibles et tes commandements sont bons pour nous. C'est ta volonté qui est la meilleure pour chacun de nous. Je te demande ce matin pour chacun de nous, Seigneur, que les petits pas que tu nous as demandés, on puisse cette semaine s'engager à le faire avec toi, dans ta présence. Te dire oui, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, parce que combien de fois j'ai remis cette chose. Et aujourd'hui, Seigneur, je veux t'obéir. Aujourd'hui, je veux t'honorer, Seigneur, et je veux faire ce pas avec toi. Marcher par ton esprit. Amen.